Comment résoudre la contradiction qui existe entre la sécurité et la liberté? Synthèse et conclusion du Café Philo du 12 janvier 2016. La sécurité, dit-on, est la première des libertés. Est-ce certain? Il arrive que la peur, la terreur déclenchée par la violence, inspire souvent des mesures attentatoires aux libertés. Comment articuler la sécurité et la liberté? On essayera de faire en sorte que le débat reste philosophique et non politique. Mais la sécurité et le sentiment d'insécurité sont des faits relatifs. En 1930, on risquait beaucoup plus de se faire assassiner ou d'être guillotiné qu'aujourd'hui. Et pourtant, cela fait 20 ans qu'on nous parle d'insécurité. Pour les gens qui sont assiégés à Alep, s'ils pouvaient se déplacer vers une ville voisine, ils s'y sentiraient en sécurité alors que nous y serions extrêmement inquiets. Nous vivons dans une société qui n'aime pas le risque. Tout doit être sécurisé, voire assuré. Nous sommes inquiets vis-à-vis de la sécurité alimentaire ou du changement climatique. Mais ces phénomènes étant engendrés par nos copains, nos alliés, ou les régimes que nous avons nous-mêmes choisis, on ne fait pas grand-chose. On réagit différemment face aux attentats. La menace se présente comme une altérité. Nous vivons dans une société de protection, de paranoïa, une société d'assurance. À chaque événement dramatique, on fait une loi. La sécurité, c'est comme une boîte à l'intérieur de laquelle on peut se déplacer mais on finit toujours par se heurter à un mur. Qu'on fait les « panic rooms », qui sont des pièces blindées, avec un maximum de sécurité, avec des procédures extrêmement complexes pour l'ouverture. Elles protègent efficacement mais elles enferment. La sécurité passe par la surveillance et cela aussi pose problème. Pour être libre, nous avons besoin d'une certaine dose de secret, d'intimité. Avec les réseaux sociaux, on se sent vite ciblé, mais c'est pour nous vendre quelque chose, et d'ailleurs c'est consenti. Cela ne semble pas très grave, même si c'est très désagréable. La surveillance des communications personnelles, c'est tout autre chose. C'est une atteinte à l'intimité. L'existence humaine a besoin d'intimité. Pourtant, sans cette surveillance, il peut y avoir des morts. Mais comment trouver ce qui est répréhensible sans surveiller tout? Répréhensible, pour qui? Pourquoi? Il y a des gens qui veulent tuer les autres, c'est un fait, et il y a un consensus pour dire que c'est mal. On met en place la surveillance pour empêcher les tueries, mais la surveillance va détecter aussi la fraude bancaire, et bien d'autres choses. On met un doigt dans l'engrenage, vers l'état policier, totalitaire. Il y a eu dernièrement 3500 perquisitions de nuit et seulement 2 enquêtes pour terrorisme. Dans la Tunisie de Ben Ali, on était en sécurité. Mais les Tunisiens n'ont pas voulu de cette sécurité que détruit la liberté. Depuis le Moyen Âge, on recherche la protection. Celle du chevalier, puis du seigneur, puis celle du roi. Pour les sociétés autonomes, nous devons assurer nous-mêmes notre protection. Selon la vieille théorie du libéralisme très différente de l'ultralibéralisme, apparue après les guerres de religion, l'État ne détient pas la vérité sur le bien, et ne doit donc pas s'en occuper. Pour Hobbes, la base de la construction de la société, c'est la peur, notamment d'être tué. Selon le mythe de l'État de nature, l'homme est un loup pour l'homme, c'est la guerre de tous contre tous, il faut donc une protection. L'État doit être suffisamment fort pour faire davantage peur. C'est le Léviathan. Cette conception est encore bien vivace dans les inconscients collectifs. Pour Rousseau, au contraire, l'homme est bon dans l'état de nature, c'est la société qui corrompt. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Si le risque augmente, nous restreindrons de nous-mêmes nos activités. Il faut donc une certaine dose de sécurité pour assurer la liberté. Mais quel type de sécurité pour quel type de liberté? La surveillance de masse produit une masse d'informations inexploitables en l'état. Si on veut écouter tout le monde, il faut faire de chaque citoyen un espion. La SNCF, suite à la tentative d'attentat dans le Thalys, a mis en place un numéro pour recevoir des dénonciations anonymes, mais il faut être géolocalisé, donc tracé à son tour. Le pouvoir judiciaire est un contre-pouvoir. On profite de l'émotion du peuple pour prendre des mesures, et plus l'émotion monte, plus on va prendre des mesures, et faire des lois. Jusqu'où? Problème supplémentaire, que vont devenir ces lois dans d'autres mains? Avec un autre type de gouvernement? Chaque fois que quelqu'un croit savoir où est le bien, il en résulte une réduction de la liberté. Au Japon, il n'y a ni insécurité, ni surveillance. Le vol à la tire et autres incivilités n'existent pas, n'est simplement pas dans leurs mœurs. C'est la culture qui rend le flic inutile. Nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure. Toutefois, si l'influence n'est pas totale, alors, la liberté existe. Que vaut la vie humaine, sans la liberté? Si nous tenons à la vie, c'est parce que nous croyons à la liberté. Pourtant, on dit parfois que la vraie liberté n'existe pas. Pour Spinoza, par exemple, la liberté n'est pas le libre arbitre mais de ne pas succomber à ses passions. Pour certains, la preuve que l'homme est libre, c'est l'existence du mal. Les anges ne sont pas libres. La philosophie est un exercice de radicalisation permanent. Il faut aussi penser la liberté radicalement. On doit reconnaître par exemple que la liberté produit elle-même l'insécurité puisqu'elle nous permet de faire le mal. La liberté de se donner à soi-même une loi, c'est l'autonomie. L'insécurité est consubstantielle à la liberté implique le risque. Notamment le risque de sortir de la norme.